Le bonheur en musique, Edith Walter.
Bonjour chers amis auditeurs, aujourd'hui j'ai un grand bonheur à vous annoncer. Je suis en compagnie de Guy Danguin. Guy Danguin, vous avez peut-être oublié, mais ça a été vraiment le plus grand clarinettiste entre quelle époque et quelle époque, Guy ?
L'époque, on peut dire à partir de 1963 et pendant une trentaine d'années, quoi.
Voilà, oui, vraiment. Moi, je me souviens quand on recevait ces disques et que vous voyez Guy Danguin à la clarinette, on était sûr de passer un moment complètement merveilleux. Et Guy Danguin a fait un très beau livre. Un très beau livre, La musique, ma vie. Et là, on découvre ce que je ne savais pas jusqu'à la lecture de ce livre, la vie extraordinaire de Guy Danguin. Guy Danguin, j'aurais aimé pouvoir le lire entièrement, mes auditeurs, ce livre, ce qui n'est vraiment pas possible. Mais on va commencer d'abord par le début, parce que votre histoire est magnifique, depuis votre naissance, si je puis dire.
Ben, écoutez, oui, on peut dire que je fais de la musique grâce à, je ne peux pas dire ma naissance, mais d'avoir vécu dans un pays, le nord de la France, où on faisait beaucoup de musique. Et beaucoup de musique au niveau des orchestres d'harmonie. Et la plupart des musiciens du nord, qui font partie des grands orchestres parisiens d'ailleurs, les souffleurs en particulier, les souffleurs, viennent de petites sociétés comme ça. Et donc on ne nous dira jamais assez que c'est important. Si je suis musicien, si j'ai la chance d'être musicien, c'est grâce à ces orchestres d'harmonie.
Oui, enfin, c'est grâce aussi à votre talent exceptionnel, et ça, c'est Dieu qui est responsable. Bon, mais ce qui est inouï, Guy Danguin, c'est que vous naissez pas très loin de Neuilly-Mines. Neuilly-Mines, moi, je connais bien, parce que mon mari était ingénieur des mines, et qu'il était un des responsables des mines. Et donc, j'ai vécu là. Et donc, là, vraiment, vous naissez dans une famille qui est modeste et qui a des qualités de cœur merveilleuses, des qualités aussi d'intelligence pour comprendre que ils vont avoir affaire à un homme, à un enfant extraordinaire. Et c'est complètement étonnant de voir comment petit à petit vous découvrez. Et on vous découvre tellement doué pour la clarinette. Ça passe vraiment par toutes les étapes possibles, imaginables, ce qui prouve bien que quand on a reçu un talent pareil comme vous, on peut naître en ayant a priori pas tellement de chance d'arriver comme pour le plus grand clarinettiste de France. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire ce parcours. Mais écoutez, c'est une chose qui m'a beaucoup ému dans votre livre.
Mais écoutez, hier soir justement, on a fait un petit repas parce qu'on s'est retrouvés entre musiciens de l'Orchestre National hier soir. Et on était tous du Nord d'ailleurs et tous heureux de cette carrière que nous avions pu faire avec des grands chefs d'orchestre, avec des grands solistes.
Les plus grands chefs d'orchestre de cette époque, c'est évident. Et bon, et puis on va en parler le long de cette émission. Mais vous avez été pendant combien de temps le premier clarinettiste, le clarinettiste solo de l'orchestre
national
voilà, on de Radio dire, France.
J'étais 30 ans. 30 ans, de 1963 exactement à 1993, ce qui fait donc 30 ans.
Et alors on imagine ce petit bout de chou qui naît à une famille
modeste,
vraiment, et qui va devenir le plus grand clarinettiste français. C'est extraordinaire quand même ça.
Oui, mais bon, c'est tout un parcours, c'est vrai, parce que j'ai été vraiment aidé par ces guides qui étaient des musiciens amateurs, qui m'ont conseillé d'aller un peu plus loin, paraît-il, parce que je le pouvais. Donc, je suis allé au Conservatoire de Lille, et puis après le Conservatoire de Paris, mais sans savoir que ça allait donner.
Et dans ce livre, on suit vraiment ce cheminement exceptionnel et votre amour pour la musique qui fait qu'en effet, vous êtes à l'abri de tout, parce que vous aimez tellement la musique que vous êtes prête à supporter des heures de travail et les difficultés financières et autres.
Ah, certainement, oui, bien sûr. Mais j'ai eu la chance, justement, j'ai fait un apprentissage dans le nord de la France, à l'orchestre de Radio Lille. Et après, j'ai eu la chance vraiment d'être reçu à l'Orchestre National de France, et c'était donc en 63. Et c'est là où j'ai la chance de devenir... D'ailleurs, j'appelle l'Orchestre National de France mon conservatoire. Mon conservatoire. Parce que j'ai eu l'occasion, alors des guides, c'est plus que des guides, parce que c'est des chefs genre Mazel, Bernstein, Celibidache...
Scholti, dont vous me parliez Scholti, quelques instants avant d'ouvrir les micros.
C'est vrai, Scholti, Scholti.
Et tant d'autres. Tous les plus grands, quoi, c'est évident. Oui. Et alors, ce livre qui est bien écrit, vous avez en plus un talent littéraire, parce que c'est bien écrit, c'est agréable. Quand on le commence, on n'a pas envie de le quitter. Je me suis dit que vous aviez reçu beaucoup de dons. Alors, vous parlez justement à l'école de l'harmonie, les guides, l'émancipation, et on va arriver à l'Orchestre National de France. Bon, vous vous mariez, vous avez femme et enfant.
Oui, on parle, hein, c'est bien.
Voilà. Comment vous arrivez au Conservatoire de Paris au Conservatoire de Paris, parce que c'est quand même là où tout va se précipiter après.
Ben écoutez, oui, c'est bien, c'est une bonne question, ça c'est vrai. Ça s'est passé comme ça, je dis un peu le hasard, la chance, je sais pas. Mais enfin, j'ai eu la chance de réussir ces concours, ça c'est vrai. Que ce soit à Lille et après au Conservatoire de Paris. Je suis rentré dans la classe de qui ? D'un maître qui s'appelait Ulysse de l'Écluse, qui était
très très célèbre aussi.
Qui était lui-même de mon village, de Neulémine.
Ouais.
Et voilà. Et bon, il m'a pris bien sûr sous son aile parce que j'étais de son pays. On parlait même la même langue, c'est-à-dire le patois du Pas-de-Calais. Donc, pour un jeune musicien comme moi, c'était quelque part un contact formidable d'avoir un maître qui était près de moi. Et c'est vrai que on peut dire que j'ai eu un parcours tout à fait privilégié et protégé.
Oui, mais ce que vous ne dites pas, c'est que quand de l'Écluse vous écoute, vous entend, il vous veut dans sa classe.
Oui, ça s'est passé comme ça. Oui.
Bon, alors, il fallait que vous réussissiez le concours. C'est un concours que j'ai passé, que je connais. Il est anonyme. Enfin, ça, c'est indépendant du professeur qui vous a choisi.
Bien sûr.
Vous passez cette difficulté, et après... Et il est très content de vous retrouver dans sa classe. Il faut dire que c'était, je crois, un grand professeur.
C'était un professeur qui m'a bien guidé. À un certain moment de ma vie, il m'a bien guidé. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a conseillé, d'ailleurs, de me présenter à l'Orchestre National. Quelques années plus tard, il m'a dit, Guy, il y a une place au National, il faut que tu te présentes. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais tout ça, pour moi, c'était du nouveau. Même, je dirais, je découvrais. Et il m'a fallu quelques années pour me dire, mais enfin, je suis bien dans ce monde-là.
Est-ce bien moi, Guy Danguin ?
C'est vrai. Encore maintenant, je me pose la question.
Guy Danguin, je rappelle que vous avez écrit ce livre. Vous nous direz comment on peut faire pour se procurer. Et puis, je propose qu'on vous écoute. On va vous écouter dans Schumann, dans Brahms, dans Debussy. J'ai choisi de faire entendre des extraits des fantaisies Stuck, les pièces de fantaisie pour clarinette et piano, et de l'opus 73, musique magique d'une fin de vie d'un compositeur admirable. Donc, on pourra entendre le premier et le troisième mouvement. Mm-hmm. Et vous êtes avec quel pianiste ? Est-ce que vous vous souvenez ?
C'est Jean Körner. Thank you.
C'est un extrait des Fantaisies Stuck de l'opus 73 de Schumann que Guy Danguin et Jean Körner étaient les interprètes. Et je vous rappelle que j'ai la chance et la joie d'avoir Guy Danguin dans ce studio. Guy Danguin, vous avez aussi été un professeur, enfin, vous avez aussi transmis cette technique formidable que vous avez et ce sens de la musique que vous éprouvez et que vous connaissez.
Écoutez, alors ça, par contre, c'est vrai que j'ai toujours aimé enseigner. Pour quelle raison? D'abord parce que je voulais transmettre ce qu'on m'avait appris. Mais ça s'est passé comme ça parce que j'ai été professeur, mais je le suis encore. Et je voudrais l'être jusqu'à la fin de mes jours. Parce que pour moi, c'est ce que je pense avoir fait de mieux dans ma vie. De transmettre.
Permettez-moi de rire, parce que ce que vous avez fait, c'est quand même pas mal. Quand on écoute cette clarinette incroyable à travers moi, les vinyles, moi je les ai découverts au moment où ils sortaient, les oui. vinyles. C'était comment faire mieux encore.
Mais tout c'est de l'indiquer, puis avec amour, c'est ça qui est important. Oui. Donner des cours. C'est pas sérieusement, mais avec son cœur. Et c'est ça le plus important. Avec passion, que l'élève se dise, mais il essaye de m'enseigner quelque chose. Donc je dois l'écouter. Et c'est ça le plus important du rôle. Le contact entre la communication entre l'élève et le prof. Très important.
Alors, ce magnifique tempérament que vous avez, cette générosité, on l'entend vraiment à travers votre clarinette, mais on la découvre aussi dans votre livre. Parce que tout le temps, vous parlez de donner. Enfin, vous êtes quelqu'un qui avait été marqué toute votre vie par le don de vous-même.
Oui, j'ai beaucoup de chance. Je suis sur une bonne étoile. C'est une bonne étoile, je pense. Je pense vraiment. Parce que je ne regrette rien dans ma vie. Tout s'est merveilleusement bien passé.
Alors, vous racontez une chose étonnante. Et j'ai oublié les détails, mais je suis sûre que vous allez les retrouver. On lit, bien sûr, toute cette période très longue où vous avez été le clarinettiste solo de l'Orchestre National de Radio France. Et un jour, dans une œuvre, vous êtes complètement seul. Vous savez que dans la salle, il y a un ministre, il y a tout le monde, et vous avez le trac. Vous vous souvenez de ça?
Bah écoutez...
Vous avez eu le trac beaucoup?
Bien sûr, j'ose le dire. Oui, bien sûr, mais toute ma vie, parce que c'est tellement important la musique, de bien la jouer au moment voulu. On ne peut pas passer à côté du trac, ouais. Autrement, on est insensible, et ce n'est pas possible. Et quand on a affaire à des grands chefs comme Bernstein, par exemple, ou d'autres comme Solti, on doit leur faire plaisir. Donc, c'est à chaque concert une épreuve, mais une épreuve. Ça m'a duré 30 ans, le trac, c'est pas uniquement une fois. Mais chaque jour, au moment où je joue, je me dis, mais attention, il faut bien jouer. Donc, il faut une grande concentration. Est-ce du trac? Je ne sais pas les mots. Une appréhension, peut-être, mais de vouloir bien faire le mieux possible. Aller au-delà de ce qu'on peut faire.
Ouais. Cet orchestre était déjà extraordinaire pendant ce temps-là.
Oui.
C'était un des meilleurs de France.
Bah, écoutez, ça, c'est bien de le rappeler d'ailleurs, parce que le national, l'Orchestre national, a été créé en 1934 avec Désiré Engelbrecht.
Bon, juste avant votre naissance.
Juste un an avant, c'est vrai. Bon, et donc ces gens-là, mais je les ai connus parce que ils sont rentrés avec Engelbrecht, donc en 1934. Mais ces musiciens qui avaient 20 ans ou 25 ans à l'époque. Je les ai retrouvés, moi j'avais 50 ans. Je peux dire mes piliers. C'est quelque part, moi je suis arrivé, j'avais 25 ans avec des gens de 50 ans et j'étais tout à fait humble de dire je les écoute. Et ils m'ont appris beaucoup. Je vais dire les noms parce que c'est très important. C'est Fernand Dufresne à la flûte qui est un merveilleux flûtiste, Jules Godjelu qui est un oboïste extraordinaire, puis tant d'autres. Hein. Mais bon, ça, c'est ce qui m'a... les petits bois, ce qu'on appelle les petits bois, et m'ont beaucoup influencé. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que l'Orchestre National, c'était mon conservatoire. C'est là que j'ai appris.
Alors moi, j'ai envie de revenir en arrière, parce que en lisant ce livre, je me suis demandé comment ses parents ont pu voir cet enfant qui devenait quand même une star, star de la clarinette, mais une star, vraiment.
Oui, bon, écoutez, alors là, moi, c'est vrai, je reviens d'ailleurs au monde amateur, parce que c'est quelque part, c'est là que ça s'est passé, parce qu'à cette époque, j'habitais dans une cité minière, bon, et dans chaque cité minière, il y avait un orchestre d'harmonie, et de minimum 80 musiciens.
C'est incroyable.
Ce qu'on a perdu maintenant, c'est bien dommage d'ailleurs.
Mais c'est le terrain musical, bien sûr.
Oui, puis ça crée un lien dans le village, dans la cité. Et on a tous commencé comme ça, mais après, donc on est parti, nous gens du Nord, on est parti au conservatoire de Lille ou de Douai pour arriver après à Paris, et on s'est retrouvé dans les orchestres parce qu'actuellement, l'Orchestre National de France, enfin, autant j'y étais, bon, dans les souffleurs, ce que j'appelle les souffleurs, eh bien, c'était 80% de gens du Pas-de-Calais et du Nord. Hein.
Oui, j'allais dire, vraiment, cette abondance d'orchestres d'harmonie, oui. C'était particulier au Nord.
Ben, on peut dire le Nord, l'Alsace quand même.
Ah, oui, l'Alsace, bien sûr, hein. Vous avez raison.
Mais bon, c'est là que ça s'est passé. Et c'est grâce à ça que... Et c'est pour ça que je suis... un défenseur des musiques populaires, encore maintenant, malgré que ça ne va... Malheureusement, ça n'est plus comme avant. C'est bien dommage. Parce que tout le monde venait de ce milieu, quoi. De ce
bien
milieu,
sûr.
Hein. Et c'est de ce vivier, on peut dire. Hein. Et voilà, ben ça fait partie de ma vie, quoi. C'est tout. J'ai eu cette chance de vivre à cette époque-là.
Oui, mais vous avez fait une carrière particulièrement brillante, mais il y a comme ça un certain nombre d'enfants, justement de mineurs, qui sont montés aussi, sont révélés très musiciens. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que ces gens-là avaient, je ne sais pas si ça existe encore autant, avaient la possibilité d'être découverts alors que...
Voilà, oui. Ça il faut bien le dire, c'est vrai, parce que je suis sûr qu'actuellement, dans toute cette jeunesse, il y en a autant.
Mais bien entendu.
Mais c'est un gâchis, parce qu'on s'en occupe plus. Alors là, c'était très simple, on rentrait dans la société de musique, parce qu'on voyait ses copains qui avaient le même âge, et puis on faisait les mêmes choses ensemble. C'était toute une vie sociale, qu'on a perdu. Et enfin, en réalité, mon parcours, c'est celui-ci. Hein.
Oui, et Guy Danguin, alors c'est le moment de dire que c'est tragique de voir que dans les écoles, il n'y a pas systématiquement des petits orchestres et la découverte de la musique, enfin, l'éveil.
Mais écoutez, oui, on peut en parler parce que vous avez un système qui est extraordinaire, c'est au Venezuela, on appelle El Sistema. Bon, on a découvert par celui qui est devenu ici depuis quelques jours le directeur de l'Opéra de Paris, Dudamel. Bon, mais dans ces petites villes, les favelas, etc., on formait des musiciens il n'y a pas si longtemps, mais...
Oui, il y avait une musique propre au pays.
Oui.
Mais ça permettait de en découvrir ceux qui pouvaient en effet...
Mais vous savez, on l'avait avant, ça, avant le système. Mais moi, je vais régulièrement en Grèce, à Corfou. À Corfou. Et à Corfou, vous avez dans la même rue, une rue de 100 mètres, hein, vous avez trois orchestres d'harmonie actuellement qui fonctionnent toute la journée. C'est ce que les enfants, quand ils ont une demi-heure à perdre, qu'ils ne sont pas à l'école, ils viennent là faire de la musique avec des professeurs qui, des fois, ont 70 ans, 80 ans, mais qui prennent le temps d'enseigner la musique. Et ça, à Corfou, vous avez trois orchestres d'harmonie sur 100 mètres C'est fantastique.
Ouais. Alors qu'en France, c'est le football qu'on peut trouver uniquement. C'est, j'ai rien contre, mais ce serait pas mal qu'on puisse donner la joie de découvrir, de jouer dans un orchestre.
C'est le projet orchestre à l'école, c'est ce qu'on veut. C'est le projet orchestre à l'école. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait. Vous savez, je me suis occupé de la Confédération musicale de France par, on peut dire, gratitude, parce qu'il fallait que je remercie un petit peu ce milieu. Un projet qui s'appelle le projet orchestre à l'école, qu'on peut créer dans chaque classe, dans chaque école de France. En France, il y a quelques 36 000 écoles. Bon, actuellement, 1000 à peu près pratiquent ce projet à l'orchestre à l'école. Alors qu'il faudrait que ce soit fait partout, parce que maintenant, il faudra absolument réunir, je pense, l'éducation nationale et le ministère de la Culture, pour faire quelque chose.
Ce sont deux entités qui s'ignorent.
Ben oui, alors que maintenant, ces enfants, bien sûr, les parents travaillent, etc., etc. Ils pourraient passer une journée à l'école, bien sûr, en faisant, comme en Allemagne, par exemple.
Comme en Allemagne, en Angleterre aussi.
Oui, on travaille les matières les principales, principales le matin, et l'après-midi, on fait de la musique, on fait de la danse, on fait du théâtre, et voilà. Et il faudrait revenir à ça, parce que nos enfants en ont besoin, parce qu'ils sont tous plus ou moins perturbés, et ce serait une solution, je pense.
Une autre solution, c'est de vous écouter dans cette œuvre tellement merveilleuse, enceinte pour clarinette et piano. Il y en a deux, il y a de l'opus 120, numéro 1, numéro 2. Moi, j'ai choisi de vous faire entendre un extrait d'enceinte pour clarinette et piano, numéro 1 en fa mineur, l'opus 120, je vous disais bien, numéro 1. Et on pourrait entendre, selon le vœu de Guy d'Anguin, le troisième et quatrième mouvement. Thank you. C'était un extrait de la sonate pour clarinette et piano numéro 1 en fa mineur, opus 120 numéro 1. Et vous avez pu entendre le troisième et quatrième mouvement. Et ils étaient interprétés par Jean-François Esser et bien sûr Guy Danguin à la clarinette. Guy Danguin, avoir une vie aussi pleine, aussi réussie, aussi étonnante, est-ce que aujourd'hui vous avez le moindre regret ou est-ce que vous vous dites j'ai eu la plus belle vie possible et imaginable?
Oh, c'est une question importante, ça, je trouve trop. Bon, quand on a eu la chance de faire ce que j'ai pu faire, de pratiquer un art comme j'ai pu le pratiquer, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Alors justement, j'essaye encore de trouver des jeunes élèves, tout petits, pour les initier à la musique. C'est une façon d'être utile encore.
Bien sûr.
Donc ça, c'est extrêmement important. Bon, qu'est-ce que je fais? J'écoute beaucoup de musique. Des choses que je n'ai jamais écoutées, surtout dans le lyrique, puisque l'Orchestre National est un orchestre symphonique. Mais le lyrique, je connais un petit peu moins bien. Et donc, j'écoute beaucoup les opéras. Je vais à l'opéra presque tous les soirs. Hein? Et voilà. Et donc, avec tout ça, ça me permet de vieillir, mais bien, musicalement, dans le bonheur.
Oui, vous êtes toujours passionné, la musique vous apporte toujours autant de bonheur comme pour nous pendant le temps de cette émission.
Absolument, ça ne m'a jamais quitté.
Alors il y a un beau chapitre qui loue vraiment le monde amateur.
Oui.
Et ça, c'est important que vous, grand, immense professionnel, vous dites tout le bien possible, imaginable sur le monde amateur. Bon, dans ce livre, vous parlez bien sûr de l'Orchestre National de France, vous parlez de tas de chapitres différents, les maîtres d'œuvre, les chefs d'orchestre, la pédagogie, les correspondances entre certaines œuvres et puis des peintures. C'est très riche ce livre.
Oui, alors bon, la pédagogie, ça c'est extrêmement important d'en parler, parce qu'il n'y a pas mille façons d'enseigner la musique. Et c'est vrai que la musique, c'est quelque chose qui demande un effort, un gros effort, une concentration et du travail régulier. Si on ne le fait plus, je pense que c'est quelque chose qui se termine. Et nous, professeurs, vieux professeurs, il faut continuer ce qu'on a fait. C'est-à-dire, il faut... Hier, j'étais chez un éditeur et je voyais un petit peu de ce que les partitions dans les cahiers d'études. C'est toujours magnifique, c'est bien fait avec des petites roses, avec des petites poupées, etc. Mais on essaye de rendre agréable, enfin,
une chose qui naturellement les
attirer l'œil de ces jeunes pour faire de la musique. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Il faut. Moi, quand j'étais gamin, on ne m'a pas demandé quoi que ce soit. On m'a dit, tu fais du solfège. Un point, c'est tout. J'ai fait le solfège, comme tous les gens de mon époque. Et on s'en est très bien sorti. Tandis que maintenant, on veut trouver 1000 façons de rendre la musique accessible, puis on s'aperçoit que nos gosses ne savent plus lire la musique. Et c'est un désastre.
Ouais.
C'est un désastre.
Alors, on va terminer avec un extrait. On va peut-être l'entendre même entièrement, ça dépend un petit peu du temps qu'on aura parlé. C'est Cédric qui sera jugé ça. La première rhapsodie pour orchestre avec clarinette principale. Vous avez enregistré ça avec l'Orchestre National de l'ERTF. C'était Jean Martinon qui vous dirigeait.
Oui. Bon, pour moi, c'est un... Vous savez, faut le dire aussi, c'est que les Français n'ont pas beaucoup de chance. Je parle des grands artistes français des vents. On n'a pas beaucoup de chance d'enregistrer notre répertoire. Par exemple, moi j'aurais souhaité enregistrer les Weber, les Mozart, un tas d'œuvres, et puis non. Par contre, vous avez Karl Leister, qui est à Philharmonie de Berlin, et lui, il a tout enregistré. Vous prenez Drucker, qui est aux États-Unis, il a tout enregistré. Et en France, on n'a pas cette chance. Mais là, justement, je suis très heureux, parce que grâce à Martinon, j'ai pu enregistrer la Rhapsodie. Et puis, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a eu le prix, on a été primé le
prix. Grand prix du disque.
Grand prix du disque, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une œuvre que... Ben, ça reste, paraît-il, une référence, ce disque.
Mais absolument.
Alors donc, écoutez, c'est tellement beau en plus. Et là, alors, ça, on parle d'école française. Maintenant, c'est vrai qu'on vit un peu dans les orchestres américains, comme s'appelle la chaîne américaine de Hilton.
Ah oui, hein, la chaîne.
C'est une grosse chaîne.
Les hôtels.
Voilà. Mais maintenant, tous les orchestres du monde jouent un peu de la même façon. C'est très difficile.
Ah oui, parce que vous dites qu'ils voyagent tout le temps et que il n'y a pas de sonorité nationale.
Voilà. Alors donc maintenant c'est devenu quelque chose d'un petit peu. On reconnaît pas très bien Montréal, d'Amsterdam, de Vienne. Pourtant hein, du national. Alors qu'avant, quand on voyageait par exemple au Japon ou en Chine, on nous demandait un répertoire français. Partait de Berlioz, Forêt, Ravel, Debussy, Ducas. Voilà. C'est-à-dire des sonorités transparentes qui correspondaient exactement à l'école française.
Au jardin, la française.
Voilà, une école transparente,
à Monet,
légère, etc., qui nous permettait. Tandis que maintenant, on perd un peu ce genre d'école française.
Écoutez, on va retrouver quand même notre joie de vivre en vous écoutant. Voilà. En écoutant donc cette rhapsodie pour orchestre avec clarinette principale de Debussy. Je rappelle que vous êtes vous, Guy Danguin, à la clarinette, et que vous êtes accompagné par l'Orchestre National de l'ORTF, et que c'est Jean Martinon qui dirige. C'était la première rhapsodie pour orchestre avec clarinette principale et avec l'Orchestre National de l'ORTF que Jean Martinon dirigeait et bien sûr le clarinettiste. C'était Guy Danguin. Il a écrit un livre qui s'appelle « La musique, ma vie ». C'est aux éditions Andel. Voilà, je vous souhaite de nous retrouver longtemps en podcast et de réécouter aussi bien la parole de Guy Danguin que sa clarinette. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.